Bonjour à tous, bienvenue. Donc nous nous réunissons aujourd'hui pour la toute dernière séance de cette saison passée entièrement dans les conditions dystopiques que vous savez, alors que nous sommes à une année entière depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et nous sommes malheureusement encore loin d'être sortis de l'auberge et même plutôt rentrés chez nous à cause du nouveau confinement qui nous pend au nez. Alors, dans ces circonstances, je tenais à vous remercier du fond du cœur, vous qui nous accompagnez en direct ou en différé, pour votre écoute assidue pendant toutes ces semaines. Ça a été pour moi un compagnonnage vraiment précieux, parce que je ne pense pas que j'aurais tenu le coup autrement. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes intéressés de près à la thématique du siècle des humiliations, Panyin Kuoch, qui est devenu un refrain favori du discours officiel chinois au lendemain du massacre de juin 1989, et qui vise de toute évidence à faire oublier cet événement traumatique. Alors, ce siècle, comme vous le savez, je le rappelle rapidement, est censé commencer en 1839 avec les guerres de l'opium, c'est-à-dire les premières agressions des puissances coloniales occidentales en Chine. Et ce siècle est censé se terminer sur l'apothéose de la libération de 1949 par les troupes communistes. Donc l'idée est simple, facile à retenir. Donc toutes les tribulations subies pendant un siècle par la Chine aux mains des agresseurs étrangers, principalement européens et japonais, n'attendaient qu'une seule chose, à savoir la libération et la victoire de la Chine communiste. Alors, ce siècle des humiliations, utilisé pour détourner l'attention et faire oublier donc le traumatisme de 1989, fait l'objet de ce livre dont nous avons parlé la dernière fois, donc Never Forget National Humiliation, et qui est dû à ce monsieur Wang Zheng, professeur de relations internationales à Seton Hall University dans le New Jersey aux États-Unis. Alors, ce livre qui a été publié, je le rappelle, par les prestigieuses presses universitaires de Columbia, me paraît très très emblématique de la production d'un certain nombre d'universitaires originaires de Chine populaire, aujourd'hui bien établis, notamment dans le système académique américain. Alors, emblématique au sens où ces universitaires chinois se montrent très au fait des dernières postures théoriques en vogue. Donc, ils ont tout ingurgité, donc la French Theory, Foucault and Derrida à travers la médiation américaine. Et ils sont également au fait des critiques dont le régime chinois actuel fait l'objet dans les milieux intellectuels dits occidentaux, c'est-à-dire principalement américains. Or, tout en ayant l'air de prendre à leur compte tous ces éléments, ces universitaires, comme M. Wang Zheng, s'attribuent avec beaucoup d'habileté, je dois dire, l'avantage du point de vue interne, ce que M. Wang Zheng appelle « the insider's view », du simple fait qu'ils sont chinois. Et ils mettent cet avantage à profit pour, au fond, justifier leur position, leur version et leur interprétation des faits, dont on finit par s'apercevoir qu'en réalité, ils rejoignent quelque peu la doxa officielle. Alors, c'est ainsi qu'en confrontant ce prétendu point de vue de l'insider, de l'intérieur, avec l'analyse d'un outsider aussi évident que William Callahan, également professeur de relations internationales au London School of Economics, nous avons pu déceler une certaine ambiguïté qui est au cœur de l'ouvrage de Wang Zheng et qui n'est perceptible qu'à un lecteur averti et attentif. Alors, en pointant la stratégie du parti, qui consiste à alimenter un sentiment nationaliste dans les jeunes générations chinoises en grattant, quand il le faut, la plaie du siècle des humiliations, le livre de Wang Zheng semble partir d'une dénonciation de ce qui serait une pure tactique politique. Mais on s'aperçoit assez rapidement à la lecture, une lecture attentive, que l'auteur est en réalité très admiratif des résultats positifs d'une telle tactique. Nous l'avons dit la dernière fois, il montre sous un jour plus que flatteur la réussite, la belle réussite selon lui des Jeux Olympiques de Pékin de 2008 et l'empathie des dirigeants chinois au chevet des victimes du tremblement de terre du Sichuan qui a eu lieu la même année, mais en omettant d'en signaler le coût humain et les véritables causes, notamment les causes véritables de ce tremblement, les dégâts de ce tremblement de terre. De la même façon, occupé qu'il est à montrer comment les dirigeants chinois post-Tiananmen ont réussi à se rallier malgré tout le soutien populaire, grâce à ce que M. Wang Zheng appelle le culte de la mémoire historique, qui, selon lui, serait chevillé au corps chez les Chinois, voire incorporé dans leur gène, cet auteur se garde bien de souffler mot, justement, de tous les épisodes plus violents et traumatisants les uns que les autres, qui ont émaillé l'histoire du régime maoïste avant 1989. Nous le rappelions la dernière fois, la campagne antidroitière des années 1950, le grand bond en avant et la grande famine qui s'en est suivie à la fin des années 50, au début des années 60, presque immédiatement suivie de la révolution culturelle que M. Wang Zheng, né en 1968, est trop jeune pour avoir véritablement vécu. Bref, le brave peuple chinois n'a guère eu le temps de souffler pendant toutes ces décennies, mais la mémoire historique dont il est question dans le livre est de toute évidence de type très sélectif, dans un style qui finit par rappeler étrangement la mémoire très sélective, elle aussi, mise au point et entretenue par le discours officiel. Donc, il me semblait important, en lisant attentivement ce livre, non seulement de suivre la démarche de son auteur, qui choisit soigneusement les points sur lesquels braquer les projecteurs, mais aussi, c'était important pour nous de bien repérer tout ce qu'il laisse dans l'ombre. Et comme disait très justement une collègue historienne, un texte est tout aussi révélateur dans ce qu'il dit que dans ce qu'il ne dit pas. Et il revient au lecteur d'être en fait plus attentif à ce qui n'est pas dit, autrement dit au non-dit, qu'à ce qui est dit. Alors, outre la sélectivité de la mémoire, une autre question que M. Wang Zheng laisse dans l'ombre est la raison profonde de la fixation de cette mémoire d'humiliation sur le Japon. Alors, ceci est d'autant plus frappant qu'il s'étend et se répand à plaisir sur toutes les humiliations que le Japon a fait subir à la Chine dès la guerre de 1895, qui s'est soldée, comme vous le savez, par la première défaite des troupes impériales chinoises face à celle de son voisin japonais, dont je rappelle qu'en superficie, il est 25 fois plus petit. Et ce voisin japonais qui a été traditionnellement considéré par les élites chinoises comme au mieux un vassal, hein, et quand ce n'est pas comme un, tout simplement un peuple de barbares et de bandits pirates. Alors, sur ce tableau que vous connaissez déjà, donc, vous avez une représentation de la reddition des généraux chinois, c'est-à-dire plus exactement manchous, qui sont encore vêtus de la tunique et de la coiffe traditionnelle des cavaliers manchous, face donc à des officiers de l'armée japonaise qui ont déjà tout l'air d'être des officiers d'une armée occidentale. Vous voyez leur costume. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, dans un article paru dans le Japan Times, donc c'est un organe de presse japonais, donc dans un article daté du 14 septembre 2013, qui s'intitule National Humiliation, China Still Vanquishing, Suppressing Ghosts of Past, donc Humiliation nationale. Cet article a été écrit à l'occasion justement d'une des célébrations en Chine de l'humiliation nationale. Donc, sous-titre, la Chine est encore victorieuse et tout en essayant de supprimer, d'annihiler les fantômes du passé. Et dans cet article, il faut dire qu'il est fait état, avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté, de toutes les exactions commises par l'impérialisme militariste japonais en Chine pendant toute la première moitié du XXe siècle. Alors, comme nous l'avons vu, le jour par excellence de l'humiliation choisie par le Parti communiste chinois, qui n'est pas le même que le jour choisi par le Kuomintang précédemment, sous Chiang Kai-shek, c'est cette date du 18 septembre, sous-entendu 1931. Ici, vous avez de nouveau ce mémorial construit à Shenyang à cette occasion, qui marque le début de l'occupation japonaise de la Mandchourie, que vous voyez sur cette carte que je vous ai déjà montrée, mais en la regardant d'un peu plus près, vous verrez justement toutes ces dates qui avoisinent ces îles et ces petits bouts de rochers en mer de Chine qui sont revenus donc tout récemment dans l'actualité du fait justement des relations conflictuelles de la Chine avec ses voisins dans cet espace maritime. Alors, les tensions et les bouffées de violence qui ont été occasionnées par cette première agression japonaise en territoire chinois, hein, sont arrivés donc à un point crucial. Le 7 juillet 1937, sur ce pont que vous voyez à l'image, que les Occidentaux appellent le pont Marco Polo, parce que Marco Polo, dans ses récits de voyage qui datent du XIIIe siècle, donc, fait allusion à ce pont qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Pékin, et que les Chinois appellent Lugouqiao. Et donc, cette date à laquelle les troupes japonaises ont attaqué ce pont est considérée comme marquant le début, véritablement, disons, la deuxième guerre mondiale en Chine. Mais encore une fois, pour les Chinois, ça a commencé bien avant, donc pratiquement une dizaine d'années auparavant. Alors, il faut quand même rappeler que cette deuxième guerre sino-japonaise, puisque la première date de la fin du XIXe siècle, comme je viens de le rappeler, entre 1937 et 1945, a fait au moins 14 millions de morts du côté chinois, ainsi que 80 à 100 millions de déplacés, de réfugiés, ce qui représente plus que la population entière du Japon à cette époque. Cet article du Japan Times donc rappelle les atrocités donc commises par ces troupes de l'impérialisme japonais, notamment en mettant en avant par représailles donc ce principe de ce qu'ils ont appelé donc les trois tout, c'est-à-dire donc tuer tout, brûler tout et piller tout, ce que on appelle en chinois donc le sangguan zhengce, c'est-à-dire donc sha guang, ça veut dire donc tuer tout le monde, shao guang donc brûler tout et qiang guang, c'est-à-dire donc piller tout. Donc le message pour les troupes est assez clair. Et évidemment, tout ça, c'est sans parler des pratiques de vivisection d'expérimentation biologique sur des prisonniers de guerre chinois. Bien sûr, en fait, le massacre de Nankin en 1937, dont nous avons vu le mémorial, qui avance le chiffre de 300 000 morts rien que sur cet épisode, dont vous avez ici quelques images. Alors là, c'est l'image du côté des vainqueurs, donc les Japonais donc entrant victorieux dans Nankin, Nanjing en chinois, et ici également. Et puis, évidemment, vous avez ces images d'atrocités, de guerre que, malheureusement, on voit un petit peu dans beaucoup d'autres guerres. Ce n'est pas une spécialité japonaise, mais vous voyez donc ce groupe de soldats japonais en train de malmener, c'est le mot est doux, d'un soldat chinois. Ici, vous les voyez en train d'enterrer vivants des prisonniers. Là, ici, vous voyez l'usage moderne que font les soldats japonais de leurs sabres, leurs sabres de samouraï. Donc, ça peut servir de manière très efficace à décapiter. Ils ont fait beaucoup de décapitations, justement, pendant leur séjour en Chine, si j'ose dire. Et voilà ce que ça donne après. C'est-à-dire, donc, vous voyez, ce soldat très content de lui, avec la tête qu'il vient de couper donc, dans les mains. Ici, vous avez une scène qui rappelle une scène très célèbre d'Eisenstein, donc tous ces morts tués à bout portant donc, sur des marches d'escalier. Ici, les cadavres entassés auprès de la rivière. Un bébé de 3 ans qu'on n'a pas hésité donc, à trucider également. Et puis, ici, la charmante vision donc, d'un corps complètement calciné. Donc, toutes ces visions de la guerre sino-japonaise et de cette occupation japonaise, évidemment, on comprend qu'elles sont de nature à entretenir un ressentiment quand même très, très, très puissant. C'est un fait de notoriété publique que le Japon n'a jamais accepté de reconnaître officiellement. Donc, en somme, ici, nous avons entre la Chine et le Japon donc un passé qui ne passe pas, mais que c'est un passé assez curieux parce que du côté japonais, on refuse de le reconnaître, donc il y a une espèce de négationnisme qui persiste, et que du côté chinois, bizarrement, on préfère qu'il ne passe pas. Parce que c'est commode justement d'en raviver le souvenir quand ça vous arrange. Donc j'ai déjà eu l'occasion de remarquer que cette hostilité anti-japonaise est ravivée quand justement il y a des tensions qui montent. Apparemment, actuellement, donc, nous ne sommes pas dans cette période, le Bouddha soit loué, parce que la Chine est en très bon terme d'échanges commerciaux donc avec le Japon. Alors du coup, là, les humiliations, on n'en parle plus tellement, mais ça peut revenir à tout moment quand l'occasion se présente. Alors pourquoi cette acrimonie et cette rancœur si particulière vis-à-vis du Japon? Alors bien sûr, il y a ce degré d'atrocité, mais c'est que, à mon avis, symboliquement, encore plus même que par les puissances coloniales européennes qui ont pourtant commencé à empiéter sur l'intégrité territoriale de la Chine dès les guerres de l'opium, au fond, ce sont elles qui ont fait l'actualité pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est par l'intermédiaire du Japon, donc cet ancien vassal, cette île peuplée de barbares et de pirates, qu'ont été assignées et assénées à la Chine les normes de la civilisation, donc traduite en japonais par Bunmei, avec des kanji qui correspondent exactement au chinois Wenming dont je vous entretiens depuis un certain temps. Donc ces normes de la civilisation définies par la modernité occidentale et qui sont donc passées en Chine par l'intermédiaire du Japon. Donc nous avons ici un paradoxe de taille, à savoir que le concept de civilisation élaboré dans l'Europe des Lumières s'est imposé à la Chine de l'extérieur par l'intermédiaire du Japon. Alors je dis que c'est un paradoxe de taille parce que, bien évidemment, ça va sans dire, la Chine se considérait non pas simplement comme un centre civilisateur, mais tout simplement comme la civilisation, à tel point que on n'a même pas eu besoin, en fait, avant l'introduction de ce terme Wenming, d'avoir un nom pour la civilisation. La civilisation, c'était tout simplement la Chine, quoi. Vous dites Zhonghua, et Zhonghua, c'est la civilisation. Bon. Alors, c'est donc par la médiation du Japon qui, comme je viens de le rappeler, avait toujours été considéré de très haut par la Chine impériale, que la Chine du XIXe siècle a été informée de ce qu'il fallait entendre par civilisation si on voulait entrer dans le club des nations modernes. Autrement dit, si on veut comprendre quelque chose à la question de la civilisation appliquée à la Chine aujourd'hui, on est obligé de passer par la case Japon. Or, ce passage obligé correspond précisément à ce que le discours officiel chinois actuel appelle le siècle des humiliations. Alors, ce qui a du mal à passer, vous l'aurez compris, c'est l'idée que la notion occidentale moderne de civilisation est introduite en Chine par le Japon, qui, en même temps, se comporte de la façon que je vous ai montré, manifestement non civilisé et même très barbare, sur le territoire chinois, jusqu'à sa capitulation finale en 1945, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vous ai remis ici le tableau chronologique que je vous ai montré il y a quelque temps. Vous voyez dessus que le Japon, qui dès le milieu du XIXe siècle, avec cette ère Meiji, je vous ai même mis donc les kanji, donc les en fait les caractères chinois, hein, donc en Meiji se dit Mingzhi, donc en chinois, et cette expression veut dire littéralement donc Zhi, le gouvernement, par Ming, par la lumière, ou on pourrait dire les lumières sous-entendues européennes. Donc ce Japon s'est lancé dès 1868 dans un processus de modernisation à marche forcée, hein, et toute la question est de savoir justement si modernisation veut dire occidentalisation. Vous vous rappelez peut-être que c'est le grand dilemme du 4 mai 1919, du Wuxi Yundong, donc en Chine. À partir de ce moment-là, la Chine se pose la question de savoir si se moderniser veut dire nécessairement s'occidentaliser. Alors, une partie de la réponse à la question se trouve dans ce livre de Pierre-François Souiri, qui est un excellent historien du Japon moderne, et qui s'intitule « Moderne sans être occidental », sous-titre « Aux origines du Japon d'aujourd'hui », qui est paru chez Gallimard dans la prestigieuse collection NRF en 2018, donc c'est tout récent. Alors, Pierre-François Souiri donc, essaye de montrer que le Japon a fait tout son possible pour être moderne sans être occidental, mais malgré tout, au départ, le projet de Meiji est quand même justement une modernisation synonyme d'occidentalisation qui a permis au Japon, de fait, dans un même mouvement, de se dégager définitivement de l'influence de la civilisation chinoise et en même temps de battre la civilisation européenne à son propre jeu. Donc vous avez les dates ici, je l'ai rappelé tout à l'heure, 1895, la victoire, la toute première sur l'armée impériale chinoise, suivie 10 ans plus tard, en 1905, de la victoire sur l'armée tsariste russe, c'est-à-dire pour les Japonais, la première victoire d'une puissance asiatique sur une puissance européenne. Et entre nous, il est intéressant de noter que la Chine, qui est à ce moment-là acculée dans une situation de réaction, hein, elle ne peut que réagir à ce qu'elle subit, hein, connaît en 1898, c'est-à-dire 3 ans après sa défaite contre le Japon, la toute première tentative de réforme politique de son histoire, donc cette fameuse réforme des 100 jours. Et si vous prenez la date de 1905, au moment où le Japon est victorieux de la Russie, la Chine se résout à abolir le système des examens mandarinaux qui avait été la colonne vertébrale de la bureaucratie impériale. Donc ici, c'est toujours intéressant de voir un petit peu la concomitance, la concordance des temps et la concomitance des dates. Et donc ce geste moderniste occidentaliste au Japon a été incarné par ce personnage dont j'ai eu l'occasion de parler dans ma présentation au colloque de rentrée de cette année, précisément consacrée au thème des civilisations, ce personnage de Fukuzawa Yukichi, qui a vécu entre 1835 et 1901, et qui a donc vécu presque pleinement cette ère Meiji dont il est justement un des moteurs principaux, hein, et qui a eu ce geste. Vous le voyez ici à l'image, dans son costume traditionnel japonais avec son fameux sabre de samouraï. Et ici, vous le voyez sur une autre photo où là, il pose en costume occidental. Sur les billets de 10 000 yens, on le voit de nouveau en costume japonais. Donc vous voyez qu'il y a cette espèce de, comment dire, d'oscillation justement entre la revendication de la tradition japonaise, autochtone japonaise, face à la Chine, et en même temps justement cette revendication de modernité qui se traduit justement de manière aussi vestimentaire. Ce personnage de Fukuzawa Yukichi donc a eu ce fameux geste de datsua, c'est-à-dire donc en chinois troya, c'est-à-dire donc de littéralement, on parlait de vêtements, en fait c'est comme quand on quitte un vêtement, on laisse tomber un vêtement, hein, de laisser tomber l'Asie, hein, comme on se défait d'un vêtement. Hein, et en faisant ce geste, le Japon remet radicalement en question la centralité traditionnelle de la Chine et sa fameuse notion de tianxia, hein, c'est-à-dire de se considérer comme tout ce qui est sous le ciel. Et la manière justement qu'a le Japon de Meiji de contester cette centralité chinoise, c'est de se considérer comme au centre d'un nouvel espace que les Japonais ont appelé Toyo, c'est-à-dire donc les océans orientaux, les mers orientales. Et c'est donc une manière, au lieu d'accepter la verticalité de la vision hiérarchique chinoise, de partager horizontalement, en quelque sorte, le monde en différentes zones, avec le Japon qui rayonne sur la zone orientale, tandis que plus exactement, les puissances occidentales occupent le reste du monde. Alors sur cette question, vous avez un très bon livre de Stéphane Tanaka, que vous avez ici à l'image, en action. Donc ce livre s'intitule Japan's Orient, donc l'Orient du Japon. Donc ça, il fait ici allusion justement à ce concept du Toyo. Et le sous-titre est Rendering Pasts into History, c'est-à-dire donc rendre des passés, les passés dans l'histoire. Et c'est un livre qui est paru en 1995 aux presses de l'Université de Californie, University of California Press. Alors, ce déplacement de l'antique universalité chinoise du tianxia, du tout sous le ciel, vers l'universalité moderne des États-nations recentrées du coup sur le Japon, se fait aussi et avant tout par un processus de traduction sur lequel nous serons amenés à revenir assez longuement, précisément du fait de l'utilisation par les élites japonaises de leur du chinois classique d'abord, et ensuite en y intégrant l'entreprise des études hollandaises, les rangaku, dès l'époque d'Edo. Donc ce processus de traduction, c'est quelque chose qui caractérise, à mon avis, véritablement la culture japonaise, puisque et qui la distingue justement de la culture chinoise qui est essentiellement monolingue. Disons que bien sûr il y a une très grande variété de parler chinois, On peut même dire que, par exemple, le cantonais, c'est pas simplement un dialecte, c'est une langue en soi, mais n'empêche que c'est une langue qui est fondée sur cette même écriture chinoise, qui véritablement fait l'unité justement de cette culture chinoise et qui la rend, comme je dis, un petit peu monolingue. Alors que les Japonais, un petit peu comme les, excusez le raccourci, enfin, évidemment ça va faire dresser beaucoup de cheveux sur la tête de beaucoup de classicistes, mais j'essaye de vous donner un équivalent. Hein. Ce bilinguisme japonais, ou plus exactement, c'est cette façon d'opérer à la fois sur une langue japonaise autochtone et sur une écriture chinoise. C'est un petit peu comparable à ce que les Romains, comme Cicéron par exemple, devaient faire quand ils étaient éduqués, c'est-à-dire en fait être également en fait tout à fait à l'aise en grec. Donc vous avez justement dans ces cultures une sorte de pluralisme, de polyglossie qui est inscrite en fait à la base de la culture. Bon, et les Japonais ont ensuite poussé le bouchon encore plus loin justement en s'initiant très tôt au néerlandais, hein, puisqu'ils étaient en relation commerciale avec justement des marchands hollandais à l'époque d'Edo. Hein. Et ce processus de traduction a atteint un paroxysme dans les années 1860-1880, au cours desquels un véritable océan d'ouvrages en langue européenne, alors principalement en anglais, se sont trouvés traduits non pas en japonais vernaculaire, hein, mais en chinois classique, hein, ou bien à coup de termes empruntés au chinois, hein, ou de néologismes construits avec des mots chinois. Donc là, je vous renvoie en fait à mon exposé du colloque de rentrée. Vous avez quelques exemples en bas de la page ici. Donc vous avez ce composé Rigaku, donc Li Xue en chinois, qui effectivement en chinois est un terme tout à fait classique, qui désigne l'étude du li, c'est-à-dire la raison inhérente des choses, hein, mais que les Japonais réutilisent pour désigner la logique au sens occidental du terme. Et de la même façon, vous avez aussi tout en bas ce terme de tetsugaku que les Japonais, en fait, c'est un espèce de composé, un mixte, entre je, qui veut dire, enfin entre tetsu, je en chinois, qui veut dire la sagesse, et gaku, xue, qui veut dire donc l'étude. Alors l'étude de la sagesse, c'est ce composé que les Chinois ont inventé pour traduire le concept occidental de philosophie. Il en va de même justement avec cette notion de civilisation, comme je l'ai dit, qui est traduite par Bumei ici, Wenming, qui est la combinaison de la notion chinoise de Wen, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, donc Wen, qui désigne en fait justement toute trace et en particulier trace écrite et par extension donc justement tout le monde humain civilisé qui laisse justement une trace, et donc le mot Ming qui veut dire lumière, hein, c'est ce combiné du soleil et de la lune qui veut dire lumière. Et donc ce composé dont on va voir tout de suite que il vient du contexte du livre des mutations, de l'ancien livre, très antique livre des mutations, le Yi Jing en chinois, ce composé est lui-même composé avec cette notion de kaika, kaihua en chinois, c'est-à-dire donc d'ouverture-transformation. Donc là, vous avez une espèce de Bunmei Kaika de l'ère Meiji est un espèce de composite de kanji, de mots chinois, hein, qui ont été, d'une certaine manière, remaniés, recomposés. Alors, cette allusion à un fameux passage du Yi Jing, du livre des mutations, cette allusion au Wenming, vous la trouvez donc dans ce livre qui se trouve schématisé ici. Alors vous savez peut-être comment fonctionne ce livre des mutations, qui est assez unique en son genre, il faut le dire. C'est un livre qui a beaucoup été utilisé comme un livre de divination, puisqu'il s'agit d'interpréter donc la combinatoire de 8 trigrammes que vous avez ici en abscisse et en ordonnée. Et quand vous les combinez, ces 8 trigrammes, c'est-à-dire des figures à 3 traits, qui elles-mêmes sont composées d'une alternance de traits pleins yang et de traits brisés yin, quand vous les combinez, vous obtenez une série de 64 hexagrammes. Là, on ne voit pas le schéma jusqu'en bas, mais enfin bon. Et ici, juste pour l'anecdote, vous avez une représentation justement de cette même combinatoire des 64 hexagrammes en un diagramme qui a été envoyé par le jésuite Joachim Bouvet en 1701 au philosophe allemand Leibniz, et qui a eu le don de susciter un intérêt absolument prodigieux chez Leibniz, qui n'était pas loin de dire que les Chinois avaient tout compris. Enfin bon, les Chinois n'avaient pas besoin de Leibniz pour en être convaincus, mais enfin, disons que c'est la légende veut que c'est à partir de là justement que on a compris cette alternance du 0 et du 1 qui est à la base de notre informatique moderne. Donc comme quoi, c'est vrai que les Chinois ont tout inventé. Dans ce livre des mutations, vous trouvez cette occurrence de vos fameux vos deux mots Wen Ming. Bon, alors de quoi s'agit-il ici? Vous avez dans le titre donc Yi, c'est le Yi Jing, le livre des changements ou des mutations, qui est donc composé de 64 hexagrammes et dont le tout premier est un hexagramme qian, entièrement composé de traits yang, c'est-à-dire de traits pleins. Et immédiatement après, vous avez son opposé, quen, qui est un hexagramme entièrement composé de traits yin, c'est-à-dire brisé, interrompu. Alors, cette troisième mention, wen yan, désigne un des commentaires qui s'est développé sur ce livre des mutations, parce que, je disais, ce livre des mutations est assez unique en son genre, dans la mesure où c'est du texte qui s'est agrégé justement un ensemble de diagrammes. C'est-à-dire donc que vous avez à la base un ensemble diagrammatique sur lequel est venu donc se sédimenter du texte. Et alors le texte, le premier texte, c'est d'abord le texte divinatoire, c'est-à-dire que sur chaque trait, vous avez une sentence divinatoire. Et donc ça, c'est la première couche textuelle en fait du livre des mutations. Et ensuite, sur cet ensemble, diagramme plus sentence divinatoire, vous avez ce qu'on a appelé les 10 ailes, c'est-à-dire en fait 10 commentaires sur justement le texte dans son, le livre dans son ensemble. Et alors donc vous avez un de ces commentaires, de ces ailes, qui s'appelle le Wen Yan, c'est-à-dire donc littéralement les paroles sur l'écrit. Alors, c'est un commentaire qui prend en particulier, tous les commentaires ne le font pas, mais qui prend en particulier chaque hexagramme avec ses sentences divinatoires, et vous avez donc le rappel des sentences divinatoires sur les six traits du premier hexagramme. Donc, bon, je ne vais pas tout lire, je n'ai pas trop le temps, mais en réalité, vous avez en fait l'évocation d'un dragon long, qui est d'abord, en fait, qu'on ne voit pas parce qu'il est sous la surface de l'eau, Qianlong. Et ensuite, vous le voyez au fur et à mesure que nous avançons dans les traits, parce que les traits se lisent de bas en haut, donc au fur et à mesure qu'on avance dans les traits, vous voyez le dragon d'abord dans les champs, sur la surface de la terre, et ensuite s'élever peu à peu dans le ciel. Alors, le commentaire du Wen Yan sur la deuxième ligne, dont la sentence divinatoire est Tianlongzai Tian, c'est-à-dire donc on voit le dragon apparaître dans les champs ou sur la terre, c'est justement cette formule Tianxia Wenming. Alors, Tianxia, je viens d'en parler, ça veut dire littéralement sous le ciel, et Wenming ici, n'est pas à prendre au sens moderne de civilisation que lui ont donné les Japonais, mais en fait, ce sont deux termes distincts qui désignent d'une part Wen, c'est-à-dire tout ce qui est justement de l'ordre de la trace et du raffinement, et puis Ming qui désigne donc la lumière. Et ce doublé Wen Ming revient de manière assez fréquente dans la littérature du livre des mutations. Quand je dis la littérature du livre des mutations, ce sont en fait tous les ouvrages et les traditions commentariales qui se sont développées à partir justement de ce noyau originel. Et Dieu sait qu'il y en a eu. On peut dire que dans toute l'histoire de la tradition intellectuelle chinoise, tous les penseurs qui ont compté dans cette tradition se sont tous intéressés au livre des mutations. Donc je vous laisse imaginer, même 10 bibliothèques ne suffisent pas à contenir tous ces ouvrages. Alors, ce que nous voyons ici, c'est la façon dont justement les Japonais, pour justement produire cet effort de traduire des concepts venus d'Occident et d'Europe en particulier, donc se sont servis des kanji, donc de cette écriture chinoise, pour recomposer à leur manière et inventer de nouveaux concepts pour les faire correspondre à cet appareil conceptuel nouveau et moderne. Alors, il est temps maintenant, enfin, de nous considérer au terme de ce que nous pourrions appeler une première série de cours sur cette question de savoir si la Chine est encore une civilisation, et de nous poser la question de savoir si nous l'avons épuisée. Eh bien, heureusement ou malheureusement, loin s'en faut. Je crois que nous avons tout juste commencé à formuler la question. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu mon habitude. J'ai commencé par un état des lieux, de la situation présente. Je suis partie de l'utilisation de ce terme Wenming dans le contexte actuel pour ensuite dérouler les chevaux à partir de là. C'est-à-dire, j'ai commencé par me demander d'où vient ma question, et je suis partie de la constatation d'une résurgence insistante du thème et du terme civilisation, Wenming, dans le discours officiel chinois et également l'espace public de la dernière décennie, c'est-à-dire, au fond, ça apparaît de manière assez évidente depuis l'accession au pouvoir de M. Xi Jinping. parce que, en fait, cette insistance sur le Wuming, sur la civilisation, vient se coupler avec la marque de fabrique de l'ère Xi Jinping, qui est loin d'être terminée, en tout cas je l'espère pour lui, à savoir donc le Zhongguomeng, c'est-à-dire donc le rêve chinois. Donc, d'une certaine manière, la Chine se projette justement comme un nouveau centre civilisateur. C'est ça son rêve. Alors, nous avons commencé par tester la véracité de cette fameuse formule Chine, 5000 ans de civilisation continue, en prêtant attention à ce que disent les archéologues. Et nous avons vu que non seulement nous sommes encore loin du compte, je crois que les compteurs ont une fâcheuse tendance à se bloquer à 3000 ou maximum 3500, mais en plus, il y a dès le départ quelque chose de vaguement fallacieux dans l'idée d'une civilisation chinoise unitaire et centralisée qui remonterait à plusieurs millénaires, et qu'il y a quelque chose d'encore plus fallacieux dans l'idée d'une continuité de la civilisation chinoise qui se poursuivrait encore aujourd'hui sous l'égide du Parti communiste. Rien que en envisageant le siècle passé, nous avons vu que ce siècle passé, dont la moitié depuis 1949 s'est passée justement sous le régime communiste, ce siècle passé n'a été qu'une succession de ruptures plus violentes et radicales les unes que les autres. Alors bon, cette continuité, il va falloir, allô, oui, il va falloir donc travailler très fort justement pour pouvoir la rétablir. Et il va falloir maintenant justement examiner en profondeur la question de savoir si et pourquoi la Chine devrait être considérée comme une civilisation, ou alors est-ce qu'elle devrait être considérée comme un empire, comme on le dit souvent, ou bien encore comme autre chose. Et ce sera donc, chers amis, l'objet de nos travaux à venir, si le Bouddha nous prête vie. Alors, ceci dit, avant de nous quitter, voici une lecture qui vient tout juste de sortir, c'est tout chaud sorti du four, qui aborde certaines questions que nous avons évoquées ou que nous serons amenés à évoquer dans le courant de nos travaux. Alors, je n'ai malheureusement pas le volume physique sous la main, puisqu'il ne sera disponible en librairie que jeudi prochain, donc encore un peu de patience, mais voici d'ores et déjà donc la couverture de ce livre qui s'intitule assez platement « Penser en Chine ». Enfin, c'est quand même pour vous dire que c'est encore possible de penser en Chine, mais on se le demande. Qui vous rappelle peut-être justement ce volume précédent que vous avez peut-être vu passer, qui date de 2007, qui s'intitulait « La pensée en Chine aujourd'hui », qui a été coordonné sous ma direction et sous celle d'Éric Vigne, un remarquable éditeur des éditions Gallimard, et qui est un ami de longue date, mais qui est trop modeste pour vouloir que son nom apparaisse sur la couverture, mais c'est moi qui le dis. Et donc nous avons remis ça, si vous me passez l'expression, donc nous avons récidivé avec ce volume qui s'appelle « Penser en Chine ». Sur la couverture, je décrypte un tout petit peu. Vous avez quelque chose qui est un jeu sur la graphie chinoise. Vous savez que les Chinois sont très fiers de leur écriture et qu'ils sont très heureux aussi d'en jouer très souvent. Vous avez un caractère dont le titre est en fait si vous enlevez le poison, tout ici, vous obtenez la longévité, la longue vie, Sho. Donc, vous avez ce très astucieux composé graphique qui vous montre que qui peut être interprété de diverses façons, en fait, qui vous montre que quand vous enlevez le poison, vous obtenez la longue vie, ou alors ça peut être aussi interprété comme voulant dire que la longue vie est quand même possible malgré le poison. Donc, allusion à très gros sabots à notre situation actuelle, n'est-ce pas ? Je vous présente rapidement donc le contenu de ce livre, qui rassemble des contributions de collègues vraiment à l'international, parce que je crois autant en fait au collectif à la collaboration internationale. Nous avons d'excellents collègues dans le monde entier. Alors, à commencer par John Makem, donc très grand sinologue de l'université La Trobe à Melbourne, en Australie, qui nous parle de philosophie chinoise et valeurs universelles dans la Chine d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez un très long article de l'historien chinois de l'université Fudan de Shanghai, Ge Zhaoguang, un article qui circule depuis un certain temps en ligne, en chinois, que nous avons traduit donc en français. Il traduit en français sous le titre « L'Empire Monde », c'est comme ça qu'on a traduit « Tianxia », sous le ciel, « L'Empire Monde fantasmé », où là, Ge Zhaoguang se montre assez critique, et même très critique vis-à-vis justement de tous ces fantasmes actuels sur la résurgence de la Chine monde. Ensuite, nous avons un article du grand anthropologue américain de l'université de Chicago, Marshall Salins, qui n'est pas du tout sinologue, mais qui s'est alarmé de l'expansion des instituts Confucius, qu'il appelle carrément Academic Malware, programme académique malveillant. Je sais que évidemment tous ces articles ne vont pas plaire à tout le monde. Donc, vous avez ici, donc, je viens d'évoquer la première partie, qui sont donc ces diverses projections de la Chine monde. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui est consacrée donc justement au récit national et aux réécritures de l'histoire auxquelles nous assistons actuellement, à commencer par un article de Damien Morier-Genoux, un jeune historien extrêmement prometteur qui a déjà collaboré au volume précédent, et qui nous parle de ce qu'il appelle de l'écart au divorce, histoire officielle et histoire parallèle de la Chine moderne. Ensuite, nous avons un article de l'intellectuel chinois Qin Hui, que certains d'entre vous connaissent peut-être, excellemment traduit et présenté par notre collègue de l'Université de Montréal, David Ownby, qui est parfaitement bilingue, et même, en plus du français et de l'anglais qu'il parle couramment, et du chinois naturellement, je ne sais pas combien d'autres langues il parle, mais enfin, toujours est-il que David Ownby s'est fait remarquer par ses travaux sur le Falun Gong. Et il anime un site que je vous recommande on ne peut plus chaleureusement, qui est malheureusement entièrement en anglais, qui s'appelle Reading the China Dream, où David Ownby traduit toutes les deux semaines des textes d'intellectuels chinois qui, malgré les conditions que vous devinez, trouvent le moyen quand même d'exprimer certaines de leurs idées. Et donc là, nous avons véritablement la voix justement des intellectuels chinois que nous n'entendons pas de notre côté du monde. Donc parmi les réécritures de l'histoire, vous avez aussi la forme cinématographique évoquée par mon excellente collègue du CNRS et de l'EHESS, Anne Kerland, qui parle de l'invention de ce qu'elle appelle entre guillemets, le cinéma chinois. Et enfin, dans cette deuxième partie, nous avons un article d'un autre professeur de l'université Fudan de Shanghai, Chu Xiaoquan, également déjà auteur dans le volume précédent, qui ici nous parle de façon assez plaisante, mais sérieuse malgré tout, de mai 68 vue de Chine. Là, ça vaut le coup pour ceux d'entre vous qui ont connu cette belle période. La troisième partie est consacrée au mode de contrôle de la société civile. Et ça commence par un article de Sébastien Weig de l'EHESS, donc, que l'on a beaucoup entendu ces derniers temps concernant justement le mouvement de protestation de Hong Kong, parce qu'il y a longuement séjourné. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien le terrain et qui parle de la marginalisation des intellectuels d'élite et l'essor d'intellectuels non institutionnels depuis 1989. Là, vous verrez dans ce volume que c'est justement cette date de 1989 est véritablement une sorte de pierre blanche, parce qu'il y a véritablement un avant et un après à divers points de vue. Ensuite, vous avez un autre article d'une autre collègue de l'EHESS, Isabelle Thirault, qui elle est sociologue et qui nous propose un article sur « Enquêter ensemble sur ce qu'on peut penser encore en Chine ». Vient ensuite un article de notre collègue chinois, mais actuellement professeur à l'INALCO, Ji Zhe, qui est lui aussi sociologue et qui travaille essentiellement actuellement sur le bouddhisme. Et ici, il nous parle des relations du bouddhisme et de l'État chinois, qu'il appelle une histoire de négociation. Et enfin, dans cette troisième partie, vous avez évidemment un article de Séverine Arsène, une jeune chercheuse qui est basée à Hong Kong, mais qui fait partie de Media Lab Sciences Po, et qui nous parle du fameux système de crédit social qu'elle appelle une gestion technocratique de l'ordre public. Et enfin, dans une quatrième partie, nous évoquons diverses tensions et crises de cette Chine actuelle, à commencer par une contribution de Nathan Sperber, fils de Dan Sperber donc, et de Monique Cantos-Sperber, chercheur à l'EHESS, qui a consacré sa thèse de doctorat au capitalisme d'État en Chine, et qui nous fait profiter donc de son expertise sur la question. Il a intitulé sa contribution « Ni socialisme, ni libéralisme », le capitalisme d'État en Chine. Ensuite, une contribution d'un collègue suédois, mais professeur à l'université Cornell aux États-Unis, Magnus Fiskesjö, j'espère que je prononce bien son nom, qui nous parle du Xinjiang chinois et qu'il appelle la nouvelle frontière de l'épuration nationale. Ça paraissait un sujet évidemment assez incontournable et qui, à mon avis, va susciter pas mal de réactions. Ensuite, nous avons un article d'une autre collègue australienne, Ruth Gamble, également de l'université La Trobe de Melbourne, qui aborde la question du Tibet à partir des conflits de l'eau. Ça, c'est un sujet qu'on oublie en général, mais il y a des conflits absolument acharnés sur les hauts plateaux de l'Himalaya, hein, donc, notamment entre les deux grands géants de l'Asie, la Chine et l'Inde, et c'est assez violent également. Et enfin, pour finir, autre sujet incontournable qu'aborde Frédéric Keck, un spécialiste de la question, les crises sanitaires et environnementales de la Chine contemporaine. Donc, vous voyez ici que nous ne sommes pas exactement dans la pensée en Chine aujourd'hui 2, hein, c'est pas on reprend les mêmes 10 ans plus tard, c'est pas ça, c'est véritablement un état des lieux de, au fond, tout ce qui fâche en Chine aujourd'hui. Je terminerai avec un petit peu de retard en vous souhaitant un peu à l'avance une très bonne année du buffle, en empruntant donc une image que je dois à ma collègue Zhang Ning de Genève, que je salue au passage. Donc une image pleine d'espoir, n'est-ce pas, parce que je suis la seule dans cet amphithéâtre navarre à avoir le privilège d'être comme ce buffle, d'avoir jeté mon masque, mais je vais le remettre dans une seconde. Merci à tous et à bientôt, j'espère.